chaque personne va l'avoir avec sa propre sensibilité, mais il y a tous ces smartphones avec des menottes qui montrent notre société qui est friquée finalement. Ça nous amène à réfléchir là-dessus. Moi, je vois cette introduction dans cette expo. Êtes-vous d'accord ?
Très bien, parce que c'est une époque où... Moi, je l'ai vu en tant que dessinateur, on le voit avant tout le monde. On se dit, oh là, il a dit ça, il a fait ça, il a dessiné ça, ça coince. Et maintenant, c'est il a dit ça, parce que c'est les citoyens qui sont concernés. Au début, on disait, c'est les dessinateurs. Bon, il y a des fatwas contre des dessinateurs, mais là, maintenant, c'est des fatwas qui ne sont pas des fatwas, mais qui sont des interdits pour dire, tu penses ça, tu ne le diras pas.
Parce que tu es complotiste.
Parce que tu es ceci ou tu es cela. Et il y a l'effet meute. Sur les réseaux sociaux qui font que très franchement c'est pour ça que je dessine les menottes et puis que c'est la justice qui se fait par réseaux sociaux interposés et la justice bon bah normalement c'est son boulot de faire ce travail là mais non on est en train de lui piquer son boulot et c'est drôle parce que moi dessinateur caricaturiste je vois que la société s'est devenue de plus en plus caricaturale, c'est-à-dire qu'on me pique à moi mon boulot de caricaturiste. Avant je faisais mon boulot de caricaturiste et puis le reste c'est assez objectif, calme, on racontait les choses et puis il y avait le déconneur dans un coin qui fait son petit dessin. Là maintenant tout le monde déconne et ce qui fait qu'il y a une confusion des genres. Et ce qui fait que le juge, on dit on ne va pas le respecter, mais on va respecter un réseau social avec une meute qui va avec, pour empêcher de dire ou de donner la parole à des gens. Ça, c'est nouveau.
Et parfois, l'interdiction morale donnée par la foule, par le peuple, va au-delà de la loi. Je vais prendre un exemple. La loi n'a aucunement interdit dans les médias traditionnels de débattre sur le vaccin, sur le Covid, ou sur le confinement. Exactement. Et les réseaux sociaux ont fait des lois au-dessus.
Vous avez tout dit. Vous avez tout dit parce que moi-même, je fais des expos dans tous les hôpitaux. J'en ai fait 53 depuis 2 ans. 53 hôpitaux. Et je me souviens qu'au tout début, en avril ou mai 2020, moi, j'entendais des gens qui disaient des choses sur le masque, des tas de choses sur le vaccin, des trucs comme ça, ou sur l'hydroxychloroquine. Et moi, je demandais, j'avais tous les directeurs d'hôpitaux devant moi, et les chefs de service, par exemple à Strasbourg, 12 000 personnes. Hein. Et donc, il y avait tous les chefs de service qui étaient là, je leur dis, mais hydroxychloroquine, c'est bien ou c'est pas bien? Et tous me disent, mais non. Non, c'est pas la bonne idée. Mais moi je suis citoyen, je suis d'abord un citoyen.
Vous dites qu'il doit y avoir un libre débat.
Ben oui, et puis le gars il propose, il a tout à fait le droit de proposer son hydroxychloroquine. Mais quand on voit quand on voit la queue des gens qui à Marseille attendent pour se faire piquer le
ramasser le professeur.
Voilà, je me dis mais. Et que d'un côté, je vois tous les médecins qui disent non, faut pas le faire. Je me dis, mais c'est quoi le. Il y a une confusion. Et là, je me dis, on a fort à faire, nous citoyens, pour essayer d'y voir clair sur tous les sujets.
On dit qu'une image vaut 1000 mots. Votre expo, à travers quelques images de l'Arabie Saoudite, avec des références, la Chine, les menottes, la vaccine, vaut des heures de conférence.
Alors, merci. Et des fois, on me dit même la phrase, c'est un vrai éditorial, c'est même pas la peine de lire les papiers du journal. Quand je travaillais au Monde, jusqu'à pendant 50 ans, j'ai travaillé au Monde. En fait, ça m'a toujours fait plaisir d'entendre ça. Mais, en fait, je veux être honnête, hein, c'est mon dessin, il donne le sentiment d'avoir tout compris sur un sujet, il donne une orientation, une prise de position, hein, j'assume et je me mouille. Mais à la fois, si on veut mieux comprendre le sujet, il faut lire le papier. Si on veut comprendre l'Ukraine, si on veut comprendre ce qui se passe sur les migrants, ce qui se passe sur l'Amérique latine, sur le Covid, il faut lire les papiers. C'est pas moi qui vais vous faire un cours. Je suis un interprète. Les interprètes, ils comprennent pas forcément les sujets de A à Z, mais ils savent interpréter. Et moi, j'interprète, je traduis en images ce que je crois avoir compris, à tel point que même, il y a même, je me souviens qu'il y a eu une fois, c'est fréquent, il y a eu le rédacteur en chef au Monde, il me dit, c'est une bonne journée pour l'euro, va voir les services économiques, ce serait bien que tu fasses un dessin là-dessus. Je vais aux services économiques, et je leur dis, il paraît que c'est une bonne journée pour l'euro. Et le mec du service économique, il me dit, qui t'a dit cette connerie-là? Et tout est là. C'est-à-dire que moi, je suis une éponge. Ah bon, il a dit ça, bon, très bien. L'autre, il a dit ça. Moi, je connais rien. L'économie, je à tel point qu'il y a même les économistes, des fois, ils voyaient mes dessins. Ils me disaient, vous avez tout compris, vous.
Parce que alors que j'ai pas compris. C'est du bon sens.
L'économie
c'est ça, oui, c'est que du bon sens.
Oui, mais...
Souvent
Oui, mais il y a des fois des positions. Je veux dire, faut-il nationaliser? Ne faut-il pas nationaliser? Bon, il y a des points de vue différents. Moi, je traduis tout ça. Et il y a des fois des économistes qui me disent, vous avez tout compris, alors que je vous assure que je n'ai pas compris. Mais le dessin donne le sentiment que j'ai compris. Tant mieux.
Pensez-vous, on dit souvent, certains pensent que le périmètre de la liberté d'expression se réduit.
Oui.
Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est une mauvaise période en ce moment. Oui, c'est... Et d'ailleurs, je me souviens que Rice, le directeur des Charlie Hebdo, après le drame de 2015, il avait dit, bon, évidemment, c'est nous, dessinateurs, qui sommes... menacé, mais à la fois, dites-vous bien une chose, c'est là maintenant c'est les dessinateurs, mais après ce sera les citoyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même sur un sujet, je dirais pas tellement, un sujet un peu mineur, dans les familles, au moment du vaccin, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, dans les familles, dans toutes les familles. Et il y avait l'oncle Jules, il fallait pas soulever la question parce que tout le monde allait se foutre sur la gueule. Mais, on a le droit d'être pour ou contre, je veux dire, on peut débattre calmement, c'est pas la peine de se donner des noms d'oiseaux. Or, les gens se foutaient des noms d'oiseaux sur un sujet sur le vaccin.
Et souhaitaient même parfois la mort de leur adversaire.
Alors,
les non-vaccinés souhaitaient la mort des vaccinés par leur poison, et les vaccinés souhaitaient la mort des non-vaccinés parce qu'ils ne sont pas vaccinés, je l'ai
alors,
vu.
Alors, ce qui est sûr, c'est que les directeurs d'établissements hospitaliers, comme je les connais presque tous maintenant, quand je suis dans leur bureau, ils me disent qu'ils sont menacés de mort, qu'ils ont été menacés de mort. Maintenant, ça s'est calmé. Mais ils ont un moment, et ils n'ont pas forcément averti la police pour essayer de calmer les choses. Vous vous rendez compte? Menacés de mort, un directeur d'établissement hospitalier. Alors, c'est quand même des gens qui sauvent la vie des gens.
Vous avez commencé votre carrière avec Michel Pollack.
Ouais.
Michel Pollack, le plateau de droit de réponse. Vous aviez des journalistes de Minute face à des journalistes de l'Humanité,
ouais, c'est vrai,
qui s'engueulaient.
Ouais.
Mais bon,
on voyait,
ça débattait.
On voyait des fois des cendriers voler.
Oui, mais ça débattait.
Ça débattait.
Que vous inspire cette époque? La regrettez-vous?
Eh bien, Volinsky, il disait à sa femme, c'est Maryse qui me l'a dit, Maryse Volinsky, elle me disait, on a connu une époque d'insouciance. Et en fait, avec le temps... Oui, on a vécu une époque d'insouciance. Je disais des choses, des fois c'était n'importe quoi. Comme j'étais au cœur de la bataille, je savais bien que des fois c'était n'importe quoi. Mais il se passait quelque chose de jubilatoire, de gourmand. Et à la fin, les gens, à la fin de la soirée, le samedi, ils étaient contents d'avoir assisté à des débats. Alors des débats un peu enflammés, mais à la fin... Tout le monde allait, il y avait un restaurant chez Boffinger, à côté de la Bastille, et je voyais des gens qui s'étaient foutus sur la gueule, et on mangeait tous une choucroute ensemble, vous voyez?
Et qui pouvaient continuer de s'engueuler.
Même pas, non, même pas. Ils étaient charmants.
Oui, parce qu'ils se respectaient dans leurs différences, c'est ça?
Je sais pas, ils se respectaient et ils n'avaient pas peur. Tiens, maintenant que j'y repense, ils n'avaient pas peur d'avoir une photo de eux en train de manger une choucroute avec un gars qui les prend en photo et qui le met sur Instagram dans 2 secondes. Et à ce moment-là, là, il y aurait eu un problème. Parce qu'il y a un côté... Après, ils sont foutus sur la gueule.
Et là, il est en train de... n'existait pas.
Bah, évidemment. Et là, maintenant, ils mangent ensemble. Alors qu'on peut très bien avoir des divergences. Moi, je me souviens que j'adorais un dessinateur qui s'appelait Jacques Faisan à la Figaro.
Au Figaro, oui.
J'étais d'accord sur rien avec lui, mais je l'adorais.
On dit souvent que vous étiez le Jacques Faisan de gauche.
Voilà, c'est ça. ce soir, mais je l'adorais.
Et je pense qu'il vous adorait aussi.
Ouais,
je
ouais, ouais. Il m'a pris sous son aile, il m'a donné des conseils pour organiser mes dessins, organiser le classement des dessins, vous voyez.
J'ai entendu Pape Ndiaye, vous l'avez comme moi entendu dire ce qu'il a dit sur CNews ou sur Europe 1. Je n'ai jamais entendu Catherine Tasca, Georges Filiou, Georges Kiègemann ou Jean-Noël Jeannet, je signe les églises de François Mitterrand, dire cela à leur époque sur leurs adversaires.
Alors, je crois que vous avez raison. J'ai pas fouillé.
Non, moi, je me suis renseigné. J'ai appelé Georges Kiègemann, tout ça. Pourtant, c'était de la Mitterrandi pure.
Mais c'était la tolérance pure. C'est une époque pas tolérante. Voilà. Dominique Jamais, je suis presque sûr.
Jean-Noël Jeannet.
Ah, j'ai compris. Ah, Jean-Noël Jeannet, évidemment.
Il n'avait jamais dit ça. Non, mais il était ministre de la Communication.
Ah, vous avez raison. François
Mitterrand.
Mais vous avez
raison.
Je
parle de Jean-Noël. J'ai cité les ministres de la Communication.
J'ai déjeuné avec lui l'autre jour.
Il y avait Catherine Tasca.
Je lui poserai la question.
Georges Filiou, Jean-Noël Jeannet. Georges Filiou, Catherine Tasca, Jean-Noël Jeannet, Georges Kiègemann. Voilà,
c'est une très bonne question.
Et j'ai cherché.
Je n'ai pas la réponse. Je crois que vous avez raison.
Alors, que pensez-vous de ce que, par exemple, quand vous entendez un ministre.
Ben, j'ai fait un dessin là-dessus l'autre jour, je vais vous le montrer. Moi, je trouve ça un peu triste. Hein, parce que qu'ils n'aiment pas telle ou telle chaîne, ou tel, bon, c'est la vie, hein, mais qu'ils disent les phrases qu'ils ont dites, faut faire attention où on met les pieds maintenant. Parce que on sent qu'il y a des phrases qui s'autorisent et puis il y a des interdits qui tombent comme ça. Ça, c'est interdit. Alors évidemment qu'ils ne vont pas l'interdire par la loi, mais à force de faire de la pression, ils peuvent interdire des pensées. Ils peuvent interdire de... Moi, je connais beaucoup de gens qui pensent quelque chose sur un sujet, ils mouffent plus maintenant. Ils disent plus rien. Ça, c'est assez inquiétant, hein.
Vous êtes un homme du print, ce qu'on appelle de la presse écrite. Or, le dessin, quand on le voit, quand j'ouvrais le mot, vous voyez, on reste plusieurs secondes, on réfléchit, on tourne la page, on revient, on se marre. Avec Internet, on fait ça.
C'est vrai.
On n'a plus la même concentration.
Oui.
Que pensez-vous de cette évolution ?
Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, il faut utiliser l'outil. J'ai un ami qui est réalisateur qui s'appelle Radu Milianou, il a fait des films.
Oui, il était là la semaine dernière en plus.
Ah oui. Ah ben c'est vrai qu'il a des copains à Saint-Malo en plus. Il m'a dit, mais il y a 10 ans, il m'a dit, Internet c'est un outil et il est en train de devenir le maître. Et l'autre jour, je l'ai encore revu, il y a trois semaines, il m'a dit, oui, j'ai dit ça, mais maintenant je change. Je dis, Internet c'était un outil, il est devenu le maître et maintenant pire, il est devenu le maître à penser. Et parce que lui-même, il travaille avec d'autres réalisateurs de films, et quand ils ont choisi un casting, on va mettre tel acteur, il y a un producteur, des fois, qui peut arriver sur le plateau en disant, non, il y a un algorithme qui pense que c'est pas cet acteur-là qu'il faut prendre, c'est un autre. Vous n'avez pas écouté un algorithme, quand même. Et oui, des fois, ils écoutent l'algorithme et pas le réalisateur qui a envie de créer. C'est quand même très inquiétant, hein.
N'est-ce pas encore plus inquiétant d'avoir ces fameuses sortes de ChatGPT en dessin qui maintenant, on peut programmer une caricature. Je peux lui dire, dessine-moi une caricature de Pape Ndiaye en train de faire ceci ou cela. Il va me le faire comme si c'était un
plantu,
sans le talent d'un
compte.
Mais il le fera très bien.
Techniquement, il peut le faire. Techniquement, il peut le faire bien même. Là où je lui donne rendez-vous, c'est là où il faut défendre un dessinateur menacé. Est-ce qu'il est capable de sortir du bois, comme j'ai, par exemple, mon association que j'ai créée avec Kofi Annan en 2006, quand il était secrétaire général de l'ONU, on a défendu des chrétiens, des juifs, des musulmans, des dessinateurs du monde entier. Et il y a eu un dessinateur portugais qui a dessiné à l'époque, il y a 3 ans, dans un journal portugais, mais qui a été repris par le New York Times, où il a dessiné le président Trump avec une kippa.
À cause de Jérusalem. Parce qu'il avait mis l'ambassade à Jérusalem.
Voilà. Grosse polémique aux États-Unis. Même Trump dit c'est un dessin antisémite. Il y a beaucoup de journaux qui sont révoltés. Vraiment, le New York Times décide de ne plus utiliser de dessin. Bon. Mais ChatGPT est incapable de prendre la défense d'un dessinateur sur un sujet comme ça.
Il aurait peut-être fallu demander au dessinateur avant les raisons de ce dessin. Il aurait peut-être expliqué qu'il n'y a rien d'antisémitisme.
Il l'a fait, mais c'est trop tard.
Il voulait simplement montrer la démarche de Trump à l'égard de l'État d'Israël. C'était sans doute ça.
Et en plus, quand Trump allait à Jérusalem, quand Trump allait à Jérusalem, il avait la kippa devant le mur de lamentation, ce qui est normal.
Bien sûr, c'est respectueux.
Quand je suis allé au mur de lamentation, j'ai mis la kippa, c'est normal. Mais sa parole à côté du tsunami mondial, laissant entendre qu'il est antisémite, inaudible, gars. Inaudible. Et donc, c'est là, je me dis, mais qui va défendre la parole d'un créateur, d'un dessinateur, d'un citoyen? C'est pas ChatGPT qui sera capable de le faire. Il sera capable de pomper et de recopier d'autres dessins déjà faits, parce que, en fait, il se nourrit, il pompe sur les autres, et puis après, il en fait ça. Jusque-là, ça ne me dérange pas. Mais là où il y a un problème, c'est qu'il y a un moment, il faut sortir du bois et dire, qu'est-ce que tu as dans le ventre, toi? Comment? Là, par exemple, ChatGPT, la France est occupée par les Allemands. Qu'est-ce que tu fais, la résistance? Jean Moulin, qu'est-ce que tu réponds, là? Qui est la torture, pas la torture, la résistance?
Quelle forme de
qu'est-ce
résistance?
Qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? Qu'est-ce qu'on dénonce? Qu'est-ce qu'on dénonce pas? Alors, vas-y, je t'écoute. Et ça, l'humain, il est quand même toujours, au bout du compte, celui qui décidera son avenir de créateur d'opinion. On crée les opinions. Le ChatGPT n'est pas... Il est un copieur de ce qui a déjà été fait. Et il le fait très bien.
Il ne veut pas offenser. À chaque fois, il vous répond, je ne veux pas offenser.
J'attends de voir.
Bleu, il va dire que la couleur bleue est très bien parce qu'il ne veut pas vous offenser.
J'attends de voir. Oui, mais justement, s'il y a le politiquement correct qui s'installe en tout, justement, nous, dessinateurs de presse, on flirte avec la ligne rouge. ChatGPT ne flirte pas avec la ligne rouge. Il dit, ça, je vais là, je vais pas. Nous, on flirte tout le temps. On dit, tiens, j'étais avec le maire de La Baule et on parlait de Sarkozy. J'ai passé mon temps, au moment où Sarkozy était président, à flirter avec ce qui était autorisé ou pas autorisé.
Ah oui, mais
il y a même des fois... Il y a même des fois...
Il est content de vous recevoir.
C'est vrai, très gentiment.
Il est content de vous recevoir.
Et à la fois, il y a eu des fois où la ligne rouge, le journal m'a laissé dépasser la ligne rouge. Et ça, c'est très agréable. Pour un créateur d'images, de se dire, oh, ils m'ont laissé dire ça, ils m'ont laissé faire ça. C'est incroyable. C'est une jouissance que ChatGPT est incapable de ressentir.
Ma dernière question, quel message avez-vous envie de lancer aux touristes et aux Beaulois qui vont venir tout ce mois d'août voir votre exposition?
Liberté, égalité, crayonnée, faites-vous plaisir. Vous avez une opinion, ne vous croyez pas que ce soit réservé aux autres. Vous avez une opinion, elle est tout à fait respectable. Est-ce que ça veut dire qu'on va être d'accord? Pas forcément. Ça veut dire que juste exprimez-vous et ne vous croyez pas que vous n'êtes pas capable de dessiner. Moi, je vous fais un cours de... J'ai fait à la BNF, à la Bibliothèque Nationale, j'ai fait venir 500 personnes qui disaient ne pas savoir dessiner. C'était ouvert à ceux qui disaient ne pas savoir dessiner. Au bout de trois quarts d'heure, ils savaient tous dessiner une petite souris, un petit Hollande, un petit dessin.
Non. Oui, mais ils ne sauront peut-être pas réfléchir, comme vous l'avez
dit. Si. Il y a un moment...
Trouver le point d'ironie.
Est-ce que j'ai encore 30 secondes? Justement, un exemple, c'est que quand je suis dans les écoles, des fois, ils me disent, vous ne pouvez pas dessiner la maîtresse? Bon, je dis, si vous voulez, alors la maîtresse... Et puis dessiner, elle a des poils aux pattes. Bon, je lui dis, mais fais-le le dessin, je lui dis, viens. Alors il vient devant mon iPad et puis il commence à dessiner. Je lui dis, tu m'as dit que tu voulais dessiner les poils aux pattes. D'abord, est-ce qu'elle a des poils aux pattes? Alors le gamin, il regarde sa maîtresse. Non. Alors pourquoi tu veux que je dessine? Comme ça, je dis, mais ah donc tu veux lui faire de la peine? Il dit, non, je ne veux pas lui faire de la peine. Si tu dessines des poils aux pattes, elle ne va pas être quoi. Et là, je lui dis, mais il faut que tu assumes. Tu vas signer ton dessin. Tu veux vraiment lui faire le... Alors à la fin, il dit, non, j'ai juste envie de faire un dessin. Fais-le, ton dessin. Et vous voyez, et après, ça devient un dessin... qu'est son vrai dessin à lui? Et qui n'est pas un dessin où il a la pétoche, ou un dessin qui est faussement arrogant, faussement irrespectueux. Et puis il y en a d'autres qui vont dessiner des moustaches aussi s'ils veulent les mettre. Mais je veux qu'ils assument. S'ils veulent dessiner une moustache, vas-y. Mais assume et signe ton dessin.